Alors bonjour aux uns et aux autres, que je n'ai pas salué ce matin. Ça fonctionne ? Oui ? Toujours heureux de me retrouver au milieu de votre assemblée. Ce matin, j'aimerais que nous puissions poursuivre une réflexion qui va se trouver dans l'évangile de Jean. Alors, en fait, il y a quelques années de cela, après un certain temps vécu dans une assemblée, on m'a dit, mais en fait, entre Ésaïe et Jean, est-ce que tu connais d'autres livres de la Bible ? Donc, à partir de là, je me suis dit, ouf, il faut que je choisisse aussi d'autres livres de la Bible. Et puis, je suis revenu, suite à une lecture d'un livre, je suis revenu à reprendre l'évangile de Jean, car très souvent, le problème de l'évangile de Jean, c'est que c'est un évangile que nous connaissons mal. En fait, bien souvent, dans mon ministère, lorsque je rencontrais quelqu'un qui était nouveau dans la foi et qui me disait « Mais qu'est-ce que je peux lire pour commencer dans la Bible ?» Alors, la première des choses que je disais, surtout pas commencer par le commencement. Parce que si vous commencez par le commencement, pour autant que vous arriviez au Lévitique, je ne suis pas sûr que vous continuerez votre lecture. Donc, il me semblait toujours préférable de commencer à conseiller quelqu'un dans sa lecture à commencer par un évangile. Alors, vous avez le choix, généralement, entre l'évangile de Marc, de Luc, qui est plus historique, ou l'évangile de Jean. Et moi, je préfère l'évangile de Jean. Pourquoi ? Parce que l'évangile de Jean, c'est un évangile tout simple. Tout simple. Qui se comprend au premier degré. Jean est quelqu'un qui écrit d'une façon remarquable et qui est simple dans une première lecture. Dans une deuxième lecture, ce n'est plus vrai. Car Jean est peut-être le théologien le plus compliqué du Nouveau Testament. Mais ça, c'est ce que nous allons découvrir. Et puis, il y a une chose que l'on doit faire dans l'évangile de Jean. Bien souvent, la plupart du temps, quand nous lisons Jean, on lit et on se cantonne à un personnage. Et par exemple, on va lire Nicodème, et on va lire au chapitre 3 de Jean, et on sait tout sur Nicodème. Ou vous saurez tout sur le chapitre 4, qui parle de la Samaritaine. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on lit Jean. Jean, c'est l'évangile des contrastes. C'est l'évangile où il y a toujours deux personnages qui, quelque part, se rencontrent, s'affrontent et sont différents. Relisez maintenant Nicodème et la Samaritaine chez vous en disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont de semblable ?» Et vous allez voir que c'est assez étonnant, quand on les rapproche l'un de l'autre, de voir qu'en fait compte, la solution pour l'un comme pour l'autre est la même. Jean est quelqu'un qui a construit un évangile de façon remarquable. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est pouvoir lire avec vous deux disciples qui se trouvent donc dans le chapitre 1, les versets 48 à 51. Mais je lirai d'abord à partir de 43. Donc Jean 1, 43. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée, il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la localité d'où provenaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet « Voici un véritable Israélite. Il n'a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda « Comment me connais-tu ?» Jésus lui répondit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier avant que Philippe t'appelle. » Alors Nathanaël lui dit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui ajouta « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le petit livre qui m'a remis en appétit par rapport à l'évangile de Jean est un livre de Timothy Keller. Timothy Keller est un pasteur new-yorkais que l'on connaît quand vous faites un petit peu les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est un pasteur presbytérien à New York, très connu aujourd'hui. Des tas de livres ont été publiés et traduits de ce qu'il a écrit. Et dans son sens, le livre que j'ai lu, il dit ceci. La première rencontre sur laquelle j'aimerais me pencher, dit-il, est à la fois caractérisée par la subtilité et la puissance. Elle a eu lieu avec un étudiant sceptique et aborde peut-être les problèmes les plus fondamentaux de l'existence. Il continue en disant ceci. Où devrions-nous chercher des réponses aux grandes questions de la vie? Où devrions-nous chercher des réponses aux grandes questions de la vie? Et où ne devrions-nous pas en chercher? Elle parle à ceux qui sont sceptiques à propos du christianisme, mais également aux chrétiens confrontés au scepticisme des personnes qui n'ont pas de foi. Moi, je m'appelle Thomas, j'ai de la peine à croire, et comme tous les Thomas, ils sont sceptiques. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Nous rencontrons des tas de gens qui n'ont pas encore découvert la foi, ou qui doutent, et même au travers de ce que nous vivons à certains moments de notre vie, nous sommes enclins à remettre en question même notre foi, en nous disant, est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'ai raison de croire? Jean, chapitre 1, versets 43 à 44, je lis maintenant dans une autre version qui est celle que j'utilise plus, la mienne, pour l'analyse du texte. Le lendemain, il voulut se rendre, donc Jésus voulut se rendre en Galilée, et il trouve Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Rien que dans ce petit texte, si vous vous arrêtez au texte et à la lecture, il y a là déjà des tas de questions que l'on peut se poser. Où était Jésus ? Jésus, au début de l'évangile de Jean, se trouve tout près de Jean-Baptiste, là où Jean-Baptiste baptisait, c'est-à-dire presque à l'embouchure du Jourdain, vers la mer morte. Et en fait, Jean nous dit, il y a une décision de Jésus de monter vers la Galilée, donc de partir vers le nord. Donc on quitte le lieu proche de Jérusalem. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte, on quitte le lieu proche du judaïsme traditionnel pour aller à Bethsaïda. Et là, si vous regardez sur une carte, Bethsaïda, problème, c'est que Bethsaïda n'est pas en Galilée. Ah ! Alors, est-ce que Jean s'est trompé ? Est-ce que Jean ne connaissait pas ? Mais en fait, la Galilée est à gauche du Jourdain, dans le nord, et en fait, Bethsaïda est à la droite du Jourdain, sur la Traconite. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? En fait, Bethsaïda est un petit village de pêcheurs. Et pourtant, il dit qu'il est, que c'est une ville. Tiens, c'est encore assez étonnant. Un petit village qui devient une ville. Alors, c'est vrai qu'il y a un moment donné où, lorsque Hérode aura décidé d'en faire sa résidence, cela deviendra une ville. Mais au temps de Jésus, ce n'est qu'un village, une bourgade. Et il rencontre Philippos. Qui s'appelle Philippe ? Notre fils aîné s'appelle Philippe. Philippos, l'ami des chevaux. Philippe a un nom grec. Il y a, de ce Philippe, il réapparaît plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Comme si, quelque part, c'était un lien entre ceux du Sérac et ceux de l'extérieur. D'ailleurs, à un moment donné, à la passion de Jésus, lorsque Jésus a annoncé sa mort, les Grecs vont s'adresser à qui pour voir Jésus ? À Philippe. Et Philippe, dans l'évangile de Jean, c'est quelque part ceux de l'extérieur qui vont être mis en contact avec Jésus. Ceux qui, en fin de compte, sont en dehors de ce que l'on pouvait appeler le lieu privilégié de Jérusalem. Philippe a été trouvé par Jésus. Il, l'Écriture nous le dit très bien, il, donc Jésus, trouve Philippe. En fait, qui a pris l'initiative ? Est-ce que c'est Philippe qui est venu vers Jésus ? Non, c'est Jésus qui va vers Philippe. C'est lui qui prend l'initiative. Il le rencontre et il va lui parler, mais il va lui parler de façon assez étonnante où l'on va voir une autorité remarquable de la part de Jésus, car en fin de compte, qu'est-ce qu'il lui dit ? Ah, c'est pas le temps d'une prédication de Jean-Marie Thomas. Hein ? Ça tient en deux mots, suis-moi. Pouf ! Le franc est tombé. Il y a un appel à la suivance, et en fin de compte, Philippe accepte. Sans plus, pas de questions supplémentaires, qui es-tu, etc., etc. Il y a « suis-moi », ok, je suis, et il devient le disciple. Mais un disciple remarquable, car en fin de compte, suivre Jésus, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement servir la cause de l'Évangile. Et Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé ». Que fait le disciple ? Il communique la parole qui lui a été donnée. J'ai commencé mon ministère pastoral avec un pasteur senior et je me souviens encore d'une de ses prédications. Il avait toujours des prédications révolutionnaires. Enfin, c'est pour moi, ça reste le prédicateur le plus extraordinaire que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans ce qu'il disait, c'était pas toujours évident à accepter ce qu'il disait. Mais je me souviens de cette prédication où il a dit « Le problème d'aujourd'hui, c'est que l'Église est le cul-de-sac de la grâce. » L'Église, le cul-de-sac de la grâce. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Tout simplement une chose, c'est que nous sommes heureux. Nous sommes heureux, nous sommes comblés. Parce que nous avons découvert en Jésus celui qui nous a sauvés. Nous qui étions destinés à une éternité, loin de l'amour de Dieu, loin de cet amour qui fait tellement de bien. En fin de compte, nous qui avons découvert en Jésus celui qui prend la colère de Dieu sur lui afin qu'elle ne tombe pas sur nous, qui nous justifie alors que lui est celui qui était sans péché. Nous étions, nous, pécheurs. C'est lui qui nous justifie et qui nous lave et nous sommes justifiés devant Dieu, pardonnés. Nous recevons en cadeau, c'est pas la TVA, hein, nous recevons en cadeau la vie éternelle. Car en fin de compte, il aurait pu arrêter simplement le fait de nous avoir lavés par son sang et puis de dire « bon, maintenant, tu continues à vivre sans péché ». Mais non, nous recevons le don du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit en nous, ce qui nous communique cette vie, nous sommes passés de la mort à la vie sans passer par le jugement, nous dit l'évangile de Jean. Nous sommes de nouvelles créatures. Waouh ! Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors merci Seigneur. Et nous pouvons louer Dieu pour cela. Et nous sommes heureux de le louer. Et nous sortons de ce lieu et nous louons Dieu pour ce que, aujourd'hui encore, on nous a rappelé l'œuvre de la croix et de ce que je suis devenu. Et nous croisons des tas de gens qui, eux, sont perdus, qui, eux, vont en enfer et, eux, sont sous la condamnation. Et, en fin de compte, nous ne faisons rien pour que leur vie change. Le cul-de-sac de la grâce disait... Le pasteur Giraud, en fait, c'est l'Église. Une Église qui se contente d'être sauvée, mais qui, en fin de compte, ne va pas faire en sorte que d'autres puissent être au bénéfice de ce salut. Philippe, le disciple, trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël. Le deuxième personnage de cet événement. Ah ! Alors lui, c'est quelqu'un. Nathanaël dit à Philippe, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Bouf ! Lui, il est aussi du nord. Nazareth, c'est juste de l'autre côté du fleuve. Et en fin de compte, il se considère mieux que les autres. Mais dans le chef de Nathanaël, est-ce que je ne me retrouve pas un tout petit peu, quelquefois ? Est-ce que tu ne peux pas te retrouver de temps en temps où je m'entends encore dans une conversation très amicale vendredi, où les amis me disent « Oh oui, mais pff, Charleroi !» Charleroi. Ouais. Très heureux, moi, d'être à Charleroi. Mais je me souviens du temps où, travaillant dans le Mons-Borinage, on me disait, ah oui, mais combien de fois est-ce que j'ai entendu ça ? Oh, ce n'est que Framerie. Ce n'est pas encore Framerie. Framerie, c'était la Marseille du Borinage. On est toujours quelque part en train de faire des discriminations. Que ça soit sur notre couleur de peau, que ça soit sur notre statut social, que ça soit sur le lieu de notre provenance, etc. En fait, Nathanaël est celui qui, quelque part, me provoque et me dit, mais en fin de compte, est-ce que toi aussi, quelque part, tu ne réagis pas de cette façon-là ? Et ton scepticisme ne vient-il pas aussi par rapport à une discrimination que tu as ? Et Philippe lui répond par deux mots. Viens voir. Viens et vois. Oh, il n'insiste pas. Philippe n'est pas celui qui va, quelque part, faire de grands discours pour arriver à la fin de son discours en disant « Tu vois, j'avais raison. Viens voir. » En fait, nous avons deux personnages. Deux personnages qui vont réagir de façon tout à fait différente. Un, qui au quart de tour, suis-moi, enclenche, et l'autre qui dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-dessous? Jésus vit Nathanaël venir à lui et lui et dit de lui, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Je répète ma traduction. Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Cette traduction-là, elle doit vous mettre la puce à l'oreille. Jean est le spécialiste de la chose. Israélite, en fait, ne se retrouve nulle part d'autre dans l'évangile de Jean qu'à cet endroit-là. Oui, dans les autres évangiles, ça va se retrouver. Mais chez Jean, c'est le seul moment où il va utiliser le mot israélite. Et donc, ça veut nous dire que Jean, il a quelque chose à nous dire, qu'il a relevé dans la bouche de Jésus. Un israélite en qui il n'y a pas de ruse. Ça vous fait penser à qui, ça? Ça doit vous faire penser à un personnage. Un israélite en qui il n'y a pas de ruse. Qui d'autre? Alors, vous avez un nom à me donner?
Oui, il n'y a pas d'erreur, hein? Tout le monde a raison, hein?
Non. Vous avez un nom? Benoît, tu souris, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Non! Non! C'est Jésus qui parle. Qui? Alors, beaucoup m'ont déjà dit ce nom-là, mais ce n'est pas l'intention de Jésus. Pensez à un personnage de l'Ancien Testament, qui s'appelait le, oui, Jacob, le rusé. Jacob le rusé, Jacob le trompeur. Mais lorsque Jacob doit revenir au pays, lorsqu'il doit franchir le gué de Yabok, que va-t-il faire? Oh, il envoie ses femmes, toujours très courageux, il envoie ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, mais lui, il n'ose pas franchir le gué. Et lui, il va passer une nuit, et j'aime bien cette notion de nuit, il va passer cette nuit où quelque part, il va devoir lutter. Lutter avec qui? Avec l'ange, mais qui dira, tu as lutté avec Dieu, c'est pour cela que ton nouveau nom s'appelle Israël. Un israélite en qui il n'y a pas de ruse. Cet homme qui cherche la face de Dieu. Cet homme qui cherche la bénédiction de Dieu, qui ne veut pas franchir le gué tant qu'il n'a pas reçu cette bénédiction de Dieu, eh ben c'est en fait compte ce Nathanaël qui est un chercheur de Dieu, qui recherche partout la présence de Dieu, qui la guette, qui la sollicite, qui la voit. Et en fait, Nathanaël, que dit-il? D'où me connais-tu? Et Jésus va lui répondre, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous... Ouais, qu'est-ce qu'il faisait sous les figuiers? Est-ce qu'il attendait que les figues soient mûres pour les cueillir ou pour les recevoir dans la main au moment où elles tombent? Non, le figuier, en Israël, c'est l'arbre symbolique du royaume. Et lorsque l'on voulait étudier la Torah, l'Israélite se mettait sous le figuier, dans cette perspective de voir dans la Torah ce qui allait être du royaume de Dieu. Et donc, quelque part, Jésus lui révèle une chose, c'est que il a vu son intention, il a vu cette recherche, il a vu cette recherche. Philippe, lui, ne recherchait rien, mais Nathanaël, lui, recherche. Et Nathanaël, du coup, par rapport à cette révélation, parce qu'elle est quand même extraordinaire, n'est-ce pas ? Elle est surprenante. Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Une confession de foi en trois termes. Tu es Rabbi, le maître de la loi. Tu es le Fils de Dieu, celui qu'en quelque sorte qui est le Messie. Et il reconnaît en Jésus le Messie, celui qui vient de la part de Dieu. Et le roi d'Israël. Ne vous trompez pas, hein, c'est pas le roi physique, mais c'est en fait compte, Israël attend un roi, un sauveur, un libérateur, celui qui a reçu, en fait compte, l'onction pour rétablir la royauté de Dieu sur le peuple. Ça, c'est la confession de foi de Nathanaël qui est complètement retourné suite à la révélation que qu'il a eue. Souvenez-vous de la question de Timothée Keller. Où devrions-nous chercher des réponses aux grandes questions de la vie? Où? Moi, frères et sœurs, je suis né dans une famille marxiste, une famille athée, anticléricale, on bouffait du curé trois fois par jour sur la tartine. Moi, j'ai grandi dans ce milieu, n'est-ce pas? Et je me souviens encore, à 8 ans, les colonies levaient du drapeau et je chantais l'international, le poing levé. Ça, je me souviens. De cette-là, j'ai cherché dans l'idéologie. J'ai cherché partout dans l'idéologie un sens à ma vie. Et je suis allé jusqu'au trotskisme. Parce que j'étais jamais content de ce que je trouvais. Car en fait, quand tous ceux qui étaient les représentants de cette idéologie, ils avaient maison, ils avaient voiture, ils avaient. Ça me semblait complètement aberrant. Ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Jusqu'au jour où j'ai dit, je fais autre chose. J'ai tout envoyé bouler et je me suis dit, maintenant je vais me faire un capital et je vais me faire un petit pactole. Et dans cette recherche d'argent, en fait, quand je n'ai pas encore trouvé mon bonheur. Où chercher? Où chercher? Il a fallu que Jésus vienne me chercher là où j'étais, dans ma chambre, en train de me poser des questions et en train de regarder par la fenêtre. Il y avait du soleil, une quatre-aile qui descendait la route qui conduisait à notre ferme. Et là, Dieu s'est révélé à moi. Waouh! Où ne devions-nous pas chercher? Nous cherchons bien souvent Dieu là où il n'est pas. Nous cherchons loin, nous cherchons et nous essayons. Mais en fait compte, le Seigneur se révèle à nous, il se révèle à nous dans sa parole et par son esprit. C'est là où, en fait compte, on trouve la vérité. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. Et il lui dit, amen, amen. Écoutez bien, parce que ça c'est Jean. Amen, amen, je vous le dis. Ah voilà tout à coup qu'il vous voit Nathanaël. Non. En fin de compte, il n'y a plus que seulement Nathanaël qui est concerné. Mais il y a tous ceux qui sont à l'écoute de ce que Jésus dit. Et c'est-à-dire, nous, aujourd'hui, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Mes frères et sœurs, Jacob n'a-t-il pas reçu cette bénédiction aussi, qu'il verrait les anges monter et descendre sur cette échelle ? Je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils, pas sur le Fils d'homme, comme tout à l'heure dans notre introduction, mais sur le Fils de l'homme. Ça demanderait une étude, mais ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Dieu se révèle. Les cieux ouverts. Mais n'est-ce pas l'attente d'Israël, ce qu'ils espèrent depuis des siècles? Car en fait, quand vous regardez en Ésaïe, chapitre 63, verset 19, vous avez ceci qui nous est écrit. Donc nous sommes au 7e siècle avant Jésus. Nous sommes depuis toujours comme ceux que tu ne gouvernes pas, sur qui ton nom n'est pas proclamé, si seulement tu déchirais le ciel et tu descendais, les montagnes crouleraient devant toi. En fait, c'est la prière d'Israël, l'attente d'Israël. On est dans cette perspective. Déchire le ciel et descends. Jésus a déchiré le ciel. Jésus est descendu. Jésus, et c'est l'incarnation. Jésus, homme, c'est Dieu qui rejoint notre humanité dans ce qu'elle vit pour lui donner du sens. Et Jésus dit, en fait, compte quoi ? Eh bien, l'attente d'Israël. Pas l'attente, hein ? L'attente d'Israël est ici, en lui, en Jésus, rencontré. Les choses sont accomplies. Et lorsque les choses sont accomplies, elles sont complètes. Ma vie trouve du sens lorsque j'ai trouvé, en fin de compte, l'objectif de ma vie et que cet objectif, je l'ai découvert. Est-ce que tu as découvert l'objectif de ta vie? Qu'est-ce qui donne sens à ta vie? Est-ce que c'est aujourd'hui et maintenant ta vie? Moi, ce qui donne sens à ma vie aujourd'hui, depuis que je suis passé par la nouvelle naissance, depuis que le Seigneur m'a converti à lui, ce qui donne sens à ma vie, c'est quoi? Un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Ça, c'est l'objectif de ma vie. Un jour, mes yeux verront Jésus. Waouh, quel jour! Quel jour! Mais ma vie, aujourd'hui, elle a du sens. Quand je rencontre des tas de gens qui me disent, mais il n'y a pas de sens à la vie. Mais si, Jésus est le sens de la vie. C'est lui qui vient me donner ce sens. Jésus est celui qui est le Fils de l'homme. Jésus, c'est celui qui a déchiré le ciel et qui est descendu. Ce ne sont pas les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle, c'est Jésus qui est maintenant le nouveau Bethel, le lieu où Dieu se révèle à Jacob. Alors, frères et sœurs, tu es un ou tu es l'autre. Soit tu es comme Philippe, suis-moi, je te suis. Moi, je n'ai pas posé de questions.
On était au mois de septembre 1974 à 18h55. Dieu m'a parlé, j'ai dit oui. Ma vie a changé. Du tout au tout. Ma femme m'a dit, je ne comprends plus rien. Et j'ai dit, mais c'est pas compliqué, convertis-toi. C'est tout simple, convertis-toi. Et elle me dit, mais comment tu peux faire? Comment est-ce que tu peux faire ça? Ben, je dis, c'est tout simple, convertis-toi. Ma femme, oh, j'en ai qu'une. Une vraie. Plus protestante qu'elle, tu meurs. Dans sa famille, il y a un pasteur à chaque génération depuis 1565. Mais on peut être né dans le berceau. On peut être né dans le cénacle. On peut être protestant depuis 1000. De toute manière, l'un comme l'autre, il te faudra vivre une révélation. Que tu sois du type de Philippe, que tu sois du type de Nathanaël, de toute façon, il te faudra naître de nouveau. Jésus aujourd'hui encore nous appelle. Jésus nous adresse encore cette parole aujourd'hui. Jésus nous interpelle dans notre foi ou dans nos doutes. Jésus est celui qui remplit notre vie et qui vient accomplir toute chose. Alors, aujourd'hui encore, je veux, même si quelque part il y a encore des doutes dans ma vie, je veux une foi pleine, sincère. Ça, c'est ce que moi, je veux. Est-ce que toi, tu le veux aussi? Nous allons prier ensemble. Seigneur, les disciples s'approchaient de toi et te disaient, Jésus, augmente-nous la foi. Et nous te prions aujourd'hui encore, Seigneur, c'est que nous désirons vraiment faire un pas de plus. Un pas de plus avec toi. Seigneur, oui, il y a les doutes. Oui, il y a les temps d'épreuves. Il y a les temps d'obscurité, il y a les nuits qui se bousculent à certains moments dans nos vies et qui, quelque part, bousculent notre façon de vivre, qui bousculent aussi notre façon de croire et où nous ne savons plus très bien comment remettre les pièces en place. Mais Seigneur, nous voulons prendre ce caillou, cette pierre blanche sur laquelle notre nom est inscrit depuis le jour de notre conversion. Nous voulons nous ressaisir, Seigneur, devant toi et te dire encore aujourd'hui, Seigneur, augmente-nous la foi parce que nous voulons aller plus loin avec toi. Et nous voulons que nos ténèbres, elles s'éclaircissent. Nous voulons que les ténèbres, que les doutes disparaissent. Nous désirons, Seigneur, pouvoir les maîtriser et pouvoir rationaliser ces doutes. Déterminer aussi d'où ils viennent. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, toujours de plus en plus, jusqu'au dernier jour. Nous t'en prions. Père, entends notre prière. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen.